De toute la journée, je n'adressais pas la parole à ma femme. Je ne le pouvais pas. Sa proximité provoquait en moi une haine telle que j'avais peur de moi-même. Elle me demanda, à table, en présence des enfants, quand je partirais pour mon voyage. Je devais aller, la semaine suivante, à une assemblée du Semstvo. Je lui répondis. Elle s'enquit sur mes besoins de la route. Je ne répondis plus un mot et regagnai silencieux mon cabinet de travail. Les derniers temps, elle n'entrait jamais dans mon cabinet, surtout à cette heure. Tout à coup, je reconnus ses pas qui approchaient. Une pensée terrible, ignoble, envahit mon âme. Venait-elle chez moi à cette heure indue, comme la femme du riz pour cacher une faute déjà commise? Venait-elle réellement chez moi? Et ses pas se rapprochaient. Mais si elle venait, j'avais donc raison. Une haine terrible s'empare de moi. Les pas se rapprochent encore. Passerait-elle par là pour aller au salon? Non. La porte grince, et sur le seuil, elle apparaît en sa taille haute et souple, douce et gracieuse. Dans ses traits, dans ses regards, une timidité, une expression insinuante qu'elle veut dissimuler, mais qui me saute aux yeux et dont je saisis toute la portée. Je faillis étouffer, tellement je retenais ma respiration. Et, sans cesser de la regarder, je pris une cigarette et l'allumai. Que signifie ceci? Je viens chez toi pour causer et tu allumes une cigarette? Dit-elle en s'asseyant près de moi et en appuyant sa tête sur mon épaule. Je me retirai pour ne pas la toucher. Tu préférerais que je ne joue pas dimanche, je le vois, dit-elle. Du tout, répondis-je. Est-ce que je ne le vois pas? Eh bien, si tu le vois, je t'en félicite. Ce que je vois, moi, c'est que tu te conduis comme une cocotte. Si tu dois jurer comme un charretier, je m'en vais. Eh bien, va-t'en. Seulement, fais bien attention que si l'honneur de la famille n'est rien pour toi, il m'est sacré à moi. Fais-y bien attention. Et que le diable t'emporte. Mais quoi? Qu'y a-t-il? Va-t'en, pour l'amour de Dieu, va-t'en. Elle ne s'en alla point. Feignit-elle de ne pas comprendre ou ne comprit-elle pas vraiment? Il est certain en tout cas qu'elle était offensée. Et elle se fâcha. Elle se leva et s'arrêta au milieu de la chambre. « Ah, tu es devenue insupportable, » fit-elle. « Un ange même ne saurait vivre avec toi. » Et désirant me blesser aussi profondément qu'elle pouvait, elle ajouta. « Après ta conduite envers ta sœur, rien ne m'étonnera plus dans ta conduite envers moi. » Elle faisait allusion à un incident avec ma sœur, pendant lequel, hors de moi, je lui avais dit des grossièretés. Elle savait que ce souvenir m'était cuisant, et elle cherchait à raviver la plaie. « Bien, » me disais-je, « offenser, humilier, injurier, et me rendre ensuite responsable. » Soudain, une fureur indicible, une rage que je ne m'étais jamais connue s'empara de tout mon être. Pour la première fois, j'éprouvai le besoin de traduire cette rage en mouvement. Je sursautai, et, sur l'instant même, je me demandais s'il était bon de me laisser emporter par mon accès. « Oui, » me répondis-je, « ça l'intimidera. » Et au lieu de combattre cette rage, je l'attisais, heureux de la sentir bouillonner en moi. « Va-t'en ou je t'assomme !» m'écriai-je d'une voix épouvantable, en la saisissant par le bras. J'accentuai intentionnellement ma colère. Et sans doute avais-je un aspect effrayant. Car elle fut si intimidée qu'elle n'eut pas la force de s'éloigner et ne fit que répéter « Qu'as-tu donc, Vassia ? » « T'en iras-tu enfin ? » hurlai-je en roulant des yeux terribles. « Tu me rendras fou ! Je ne réponds pas de moi, sors donc !» Et m'y abandonnant, je m'enivrai de cette fureur et je voulais, pour en montrer le degré, me laisser aller à quelque acte de brutalité. J'éprouvais comme un besoin de la battre, de l'assommer. Mais je savais que cela ne se pouvait pas, et je me contins. Je m'élançai vers mon bureau, je pris un presse-papier et le jetai sur le plancher à ses côtés. J'avais visé de façon à ne pas l'atteindre. Alors, elle se leva pour sortir, mais s'arrêta à la porte. Je continuai à lancer des objets, de manière à ce qu'elle le vît. Je pris un chandelier et l'envoyai rejoindre le presse-papier. J'arrachai le thermomètre du mur, toujours hurlant. « Va-t'en, va-t'en, je ne réponds pas de moi !» Elle partit. Je me calmai aussitôt. Une heure après, la nourrice vint me dire que sa maîtresse avait une crise de nerfs. J'allai la voir. Elle sanglotait, riait, incapable d'articuler un mot et tremblant de tout son corps. Ce n'était pas une feinte. Elle était réellement malade. Au jour, elle se calma. Et nous nous réconciliâmes sous l'influence de ce sentiment que nous nommions amour. Le lendemain, je lui avouai que j'étais jaloux de Troukhatchevski. Elle ne fut en rien embarrassée, se mit à rire de l'air le plus naturel, tant lui parut étrange la possibilité de céder à un pareil homme. Est-ce qu'une honnête femme peut éprouver pour un tel homme un sentiment autre que le plaisir de faire de la musique avec lui ? Demanda-t-elle. Si tu y tiens, je suis disposée à ne plus le revoir de ma vie, même dimanche, bien que nos invitations soient lancées. Écris-lui que je suis souffrante et tout sera dit. Une seule chose m'ennuie, c'est que quelqu'un puisse croire, surtout lui, qu'il soit dangereux. Oh, ma fierté est blessée d'une telle idée. Et elle ne mentait pas. Elle croyait réellement à ce qu'elle disait. Elle espérait par ses paroles faire naître en son cœur du dédain pour lui. Mais elle n'y réussit pas. Tout se tournait contre elle, surtout cette diable de musique. La querelle prit ainsi fin. Le dimanche, nos invités arrivèrent. Troukhatchevski et ma femme firent encore une fois de la musique ensemble.